forever. NBA Now and Forever.
Bonjour à tous et à toutes hein, dans ce nouvel épisode de Forever. Hein, je suis Vladimir, hein, votre honorable serviteur, hein, comme d'habitude, comme toutes les semaines. Hein, et je vous présente un cast, comment dire, un peu XXL pour cette semaine. Hein, je vous fais dès à présent donc, la présentation du cast de cette semaine. Hein, donc notre premier compère hein, de cet épisode est... comment dire, d'humeur plutôt, allez, enthousiaste, voire épanouie, hein, depuis le retour de Chris Middleton, hein, qui se porte visiblement bien mieux que son homonyme de nom, hein, outre-manche, hein, je ne ferai pas la référence, hein, pour ceux qui le savent. Comment tu vas, Rafik?
Bah écoute, hein, t'as tout dit, hein, très bien, retour de Chris Middleton, notre meilleur joueur de basketball, donc on redevient optimiste pour être champion NBA cette saison.
Et bah écoute, c'est parfait, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à le dire le concernant en ce moment. Ensuite, on a notre guide du routard, notre Globetrotter, hein, n'oubliez pas d'ailleurs hein, d'aller checker son podcast, hein, Globetrotter, hein, sur toutes les plateformes, hein, si vous êtes passionné de voyage, hein, d'ailleurs hein, le Globetrotter qui a pour slogan hein, « Toutes les routes mènent au titre pour les Lakers ». Comment ça va Samuel?
Ça va très bien, tous les chemins mènent au titre, notamment les 26 points lors du dernier match de Spencer Dinwiddie. Donc les miracles existent, et en plus quand tu peux en coller 150 aux paysans de Damas, c'est excellent.
Et bah parfait. Ensuite, nous avons le fan de la franchise hein, qui a été capable de gagner le tiers de ses matchs hein, sur la saison face aux Suns, hein, n'en déplaise à certains fans hein, des soleils hein, dont je tairai certains noms notamment en interne et bien sûr le supporter hein, numéro 1 du mec qui a été clutch hein, donc Jeremy Sohan hein, donc depuis bien sûr hein, ce fan en question est en Zizicopter. Comment tu vas Quentin?
Ah bah ça va très très bien.
Ça va, tout va bien là, je te sens un peu sur un nuage là hein.
Ah bah je m'étais pourtant dit je vais arrêter de regarder les Spurs parce que il y a d'autres équipes compétitives à regarder. Mm-hmm. Bah finalement on va peut-être pas arrêter maintenant.
En tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite pour tes Spurs. Et enfin, notre invité de la semaine, hein, celui que je considère comme un peu la force tranquille hein, de la commu Basket FR, hein, même qu'on peut éventuellement comparer à Patrick Fandio, hein, version San Antonio, hein, pour ceux qui ont la référence, le tout avec une chevelure à rendre jaloux Steve Nash le TikToker, hein, version 2003, pardon. J'en perds mes mots. Je vous présente bah, Benjamin Moubèche, comment vas-tu?
Ça va très bien, j'apprécie la comparaison avec Steve Nash pour une fois que c'est pas avec une meuf en fait pour commencer. Et non, ça va bien parce que moi aussi j'ai apprécié le tir de Jeremy Sohan, donc c'était très très cool.
Tu m'étonnes en étant local. Avant de commencer justement le déroulé de notre émission, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup Benjamin, ce que tu fais d'ailleurs actuellement hein, depuis ce début de saison NBA?
Ah, du coup, pour expliquer rapidement, je suis parti à San Antonio après la draft de Victor Wembanyama. Je vis ici maintenant pour suivre les Spurs et leur saison un peu catastrophique. Et du coup, je travaille pour quelques médias, dont Reverse en priorité, Reverse/ Basket Session sur Internet. Et j'ai aussi mon propre podcast, Move Deep, dans lequel je fais un petit peu le point sur l'actu de Wembanyama et des Spurs. Donc voilà, je suis à tous les matchs. Pour ceux qui se plaignent de regarder les matchs des Spurs, moi, je n'ai pas le choix. Je suis assis dans la salle et je ne vais pas partir avant tout le monde. Donc voilà. Et puis voilà, je suis, comme tu l'as dit, je suis un local de San Antonio maintenant. Et j'essaie de suivre l'équipe au maximum.
Eh bien, super. Eh bien, écoutez, messieurs, je vous propose qu'on attaque directement les actus en bref. Bon, comme d'habitude, hein, on va commencer par les joueurs de la semaine, hein, n'en déplaise pour le coup à Samuel, hein, on a joueur de la semaine sur la conférence Ouest, Anthony Davis, hein, pour une fois qu'il ne dévisse pas, 27 points de moyenne, 16,7 rebonds à 68,6% de moyenne au tir avec un bilan de 3-0, et on a sur la conférence Est le rival hein, côté Boston avec Derrick White, qui tourne à 20,3 points, 6,5 rebonds, 8,8 passes pour un bilan de 4-0. Bah messieurs, je vous laisse réagir sur les joueurs de la semaine, plutôt logique, hein, je pense. Hein.
quand il y a les Lakers, c'est tout le temps logique de toute façon, Vladimir. Non, plus sérieusement, en soi, oui, il y a eu des victoires qui se sont enchaînées côté Lakers contre des équipes mid, hein, pas des équipes de haut de tableau. Ça va être confirmation ou pas contre les Bucks de Kate Middleton, le joueur préféré de Rafik.
Tellement vous bossez ce soir, c'est même pas. Tu vas te réveiller, tu vas avoir un gros score.
Voilà, donc
réveille même pas.
Je pense que je vais pas me réveiller. Je vais rester dans mon sommeil. Mais non, il y a eu 3 victoires contre les Pacers, les Sixers et les Hawks où Anthony Davis a été bon à chaque match. Et en général, quand Anthony Davis est bon, eh ben les Lakers sont bons. Hein. Donc c'est lié les deux. Malheureusement, le problème avec Anthony Davis, c'est qu'on sait qu'un pépin, ça peut vite arriver. Et ça peut vite dévier, mais bon, pour l'instant, là, il est en forme. Il n'a pas encore joué contre un pivot européen, donc ça devrait aller.
Ouais. On fera pas la référence de qui tu fais allusion. Quentin, toi, tu sais peut-être rebondir sur les joueurs de la semaine, notamment.
Bah, en fait, c'est assez. Je ne sais pas si dire c'est assez logique à l'Ouest, tu vois, parce que tu en as plusieurs qui ont fait des grosses semaines entre Anthony Davis, mm-hmm. qui fait une énorme semaine, Jokic ou encore Jalen Green.
Mm-hmm. Aïe.
Mm-hmm.
Voilà. Non, mais faut le dire, tu vois, il fait une grosse semaine. Bon, c'est 2 grosses semaines dans l'année, mais on va lui laisser ça. Et à l'Est, j'ai pas assez suivi, mais bon, c'est le king d'Eric, donc on va dire que c'est mérité à 1000%.
Ouais, sachant que tu as pas mal d'affection le concert.
D'accord,
voilà.
Là, forcément, ouais, quand tu passes par les Spurs, il y a le bonus. Mais non, parce que sur le côté de Jalen Green, je pense que je l'aurais plus vu joueur de la semaine pour le coup, parce qu'il a vraiment fait une semaine exceptionnelle. Il y a aussi les 3 victoires. Il met 36 points par match quand même, à 50% à 3 points. Il est quand même sur une semaine. Je reconnais que la saison dans son ensemble est contrastée, mais la semaine de Jalen Green, elle est exceptionnelle. Donc je sais pas si c'est si logique pour Anthony Davis, mais c'est pas un vol. Pour Derek White, j'ai l'impression que c'est un peu gratuit. Enfin, il pouvait le gagner, il y avait pas de raison, mais il y a plein d'autres joueurs qui auraient pu mériter, même Tatum par exemple. Mm-hmm. Donc pourquoi pas Derek ? Allez, un petit pour Derek.
Oui, bon, on va dire que ça fait pas de mal non plus de voir peut-être des joueurs qui sont un peu plus au second plan pouvoir justement se distinguer.
Ah, c'est vrai. Et les récompenser aussi.
Oui, et les récompenser, tout à fait. Après, Jalen Green avait déjà été joueur de la semaine dernière, donc c'était peut-être pour justement changer un petit peu la tendance, sachant que bon, pour une fois, les Lakers sont invaincus sur une semaine, donc on va pas non plus s'en plaindre.
Donc, et Jalen Green, en plus, Rafik, il aurait pas supporté, je pense, 2 semaines de suite.
Ouais, là, 2 semaines de suite.
Je pense que là, il aurait pas digéré du tout. Là. Il dormirait. Il aurait même pas regardé le match de cette nuit.
Moi non plus. Déjà qu'il va être joueur du mois.
Merci.
Je vais tirer une balle.
C'est pas.
Peut-on dire que vous êtes de jalousie?
Non, mais c'est terrible pour le basket, franchement, c'est une mauvaise nouvelle.
Voilà, il n'y a rien d'autre à dire.
Mais de toute façon, on sait très bien que le joueur du mois, ce sera Luka Doncic, hein, n'est-ce pas, Samuel?
Je ne répondrai pas
à ce genre de provocation.
C'est ça.
Bon, ben voilà, pour les joueurs de la semaine. Ensuite, nous avons donc, alors, petite anecdote hein, que j'ai vue d'ailleurs pas très longtemps avant d'enregistrer la session. Donc, on a les Portland Trail Blazers qui alignaient samedi, alors c'est assez inédit, contre Denver, un 5 de départ qui était uniquement composé de rookies. Donc, on avait Scoot Anderson, hein, le pick numéro 3 de la dernière draft. On a Diop Reith, Chris Murray, Tuami Kamara ainsi que Ryan Rupert, sachant que ce 5 de départ a combiné au total 76 points malgré la défaite 114-111 face à Denver. Pour l'info, hein, c'est la seconde fois dans l'histoire hein, que nous avons droit à ce scénario, sachant que la première date du 26 avril 2012, hein, c'était le dernier match de la saison régulière post-lockout, qui avait été aligné hein, par les Golden State Warriors contre les San Antonio Spurs justement, avec un 5 de départ qui était composé de Klay Thompson, Charles Jenkins, Chris Wright, Jeremy Tyler et Michael Gladness. Bon voilà, c'était la petite anecdote. Je ne sais pas si ça vous fait rebondir, peut-être, messieurs.
Bah, il y avait un Français déjà, donc c'est bien.
Non, en vrai, c'est bien. Et puis ça montre que les Blazers donnent plus de minutes à leurs jeunes. il faut quand même noter un truc là-dedans, c'est que Diop Rith, il a quand même 27 ans, donc Rocky, les petites guillemets quand même.
Ouais.
mais à part lui, ouais, c'est vrai, c'est jeune, c'est cool, ça fait plaisir. Et puis Ryan Rupert qui a des minutes, on dit oui. Hein.
Oui, c'est sûr.
Moi, ça me fait me poser une question sur ce 5. Mm-hmm. À votre avis, d'ici 2 ans, il y en aura encore combien de 5 en NBA?
Pour le coup, à voir, hein. Parce que bon, on verra bien ce que ça donne. Alors, c'est vrai qu'après, on a Ryan Rupert, oui, qui n'a pas non plus énormément de minutes. Après, c'est un peu le cas. Bon, en dehors de Scoot Anderson, qui a vraiment des minutes conséquentes. Après, c'est vrai que bon, c'est
pour pas bien les utiliser en plus.
Ouais, ça va. Pour le, enfin, ouais, tu parles de ce match-là?
Non, je parle en général.
Ah. Ouais, bon, après, malheureusement, on sait bien la situation à Portland qui est pas forcément des plus faciles après l'été qu'ils ont passé à vouloir complètement désengorger et vraiment dumper, enfin essayer de dumper, façon de parler, hein, parce qu'ils ont quand même renouvelé, je citerai pas le joueur à hauteur de 160 millions, mais bah bon, c'était histoire un petit peu de dégraisser, on va dire. Donc bon, voilà. Ensuite, troisième actu, les dates du play-in tournament et des tours de play-off qui sont désormais connues. Donc, hein, pour rappel, le play-in tournament, hein, donc, va faire affronter pour 2 spots, hein, en play-off, donc les places 7 et 8 ainsi que les places 9 et 10 sur un premier temps. Et ensuite, donc, le perdant de la première rencontre versus le gagnant de la seconde rencontre pour le spot numéro 8 de chaque conférence. Donc, ce play-in tournament aura lieu entre les 16 et 19 avril. Donc, dès le lendemain, le 20 avril, nous avons les play-offs qui commencent, donc les premiers tours. Ensuite, les 6 et 7 mai, nous aurons les demi-finales de conférence qui commenceront, avec possibilité, si les séries du premier tour sont courtes, que ce soit avancé de 2 jours. Ensuite, les 21 et 22 mai, ce seront les finales de conférence. Et ensuite, donc les 6, 9, 12 et 14 juin, nous aurons donc les 4 premiers matchs des finales NBA avec potentiellement d'autres rencontres les 17, 20 et 23 juin. Dernière actu de cette semaine, hein, qui marque un petit peu l'histoire, Domantas Sabonis, hein, qui a écrit donc la nuit dernière, hein, face aux Sixers, voilà encore les Sixers, qui a écrit donc l'histoire en enregistrant la plus longue série de double-doubles sur les 50 dernières années avec le nombre de 54 double-doubles. Bon, ça prouve quand même, on va dire, une certaine régularité, et puis c'est bien, ça, je trouve ça bien parce qu'au moins ça lui permet de rentrer dans l'histoire malgré qu'il ait été complètement boycotté du All-Star Weekend.
C'est terrible, hein. Comment il a été boycotté.
Bah lui et De'Aaron Fox aussi, hein.
Ouais, bah c'est...
Les deux des Kings ont été boycottés.
Ouais, bah franchement ils souffrent. En fait c'est un peu triste à dire, mais c'est le fait qu'il joue aux Kings. Normalement il devrait être All-Star Game, mais quand tu joues pour les Kings, c'est pas pareil que quand tu joues pour les Lakers ou pour les Warriors à l'Ouest. Et tu joues pour une des deux franchises que je viens de citer, tu mets 15 points par match, tu peux être All-Star. Aux Kings, c'est faut faire 3 fois plus.
Et, en voilà, fait, c'est avec qui qu'il était en ballotage, avec Davis.
Parce que
si après tu te fies à la popularité, bon déjà on sait que c'est cuit, mais après même au stade Davis est au-dessus, donc après c'est avec qui tu le mets à la place de qui après dans les All-Star Games, ça qui est compliqué avec Sabonis aussi. Moi je pense qu'il mérite, hein, mais après, qui tu sors en fait, quoi, c'est ça le.
Tu as toujours les wildcards qui prennent pas en compte les postes sur lesquels tu peux le mettre, mais j'ai pas en tête perso les All-Star de cette année parce que bon, comme chaque année on s'en fout un petit peu, mais je sais pas, je me souviens pas si c'était à ce point un vol. Je pense qu'il aurait dû y être, mais je vois pas qui remplace exactement, mais je pense qu'il y a bien un mec qui peut dégager au profit de Sabonis. Non, j'ai pas en tête exactement. Peut-être en remplacement, quand Karl Anthony Towns est devenu remplaçant, je sais plus qui était blessé d'ailleurs, ils auraient peut-être pu mettre Sabonis à la place pour récompenser la saison. À part ça, c'est vrai que je vois pas exactement qui l'aurait pu remplacer, mais bon, c'est dommage pour lui, c'est sûr.
Non, c'est sûr que ouais, c'est dommage pour lui, mais bon, en tout cas, c'est bien, ça prouve la bonne dynamique dans laquelle il est, aussi la place qu'il prend maintenant, parce qu'il commence réellement à se faire un vrai statut, hein. Là, c'est vraiment la saison de la confirmation pour lui, malgré que les Kings, bon, les résultats collectifs, bon, ils sont sixième, hein, ils sont en ballotage avec Dallas pour une place qualificative directe en playoff. Mais au moins, c'est bien, ça montre que le gamin suit, enfin, le gamin façon de parler, suivent un peu les traces, notamment de son paternel, dont on ne refera pas le CV. Donc voilà pour les actualités. Est-ce que vous avez peut-être d'autres actus ou peut-être des choses qui sont passées sous le radar, messieurs ?
Non, pas pour ma part.
Non, tout est OK pour vous ?
Voilà, ah, il y a Cam Place Antonio.
De quoi ?
Non, je disais, c'est le calme à San Antonio, donc pour moi, c'est non.
Ouais, bon, le calme, bon, hein, on va peut-être pas revenir sur le match, mais face à... Il y a quand même eu une très belle performance qui fait notamment plaisir à Quentin des Spurs.
Sans Wembanyama, en plus.
Oui, sans, en plus.
Sans Wembanyama, ouais. Après, à ce stade, gagner contre les Suns, c'est plus une surprise pour les Spurs, parce que comme tu l'as dit au début du podcast, effectivement, c'est la seule habitude depuis le début de la saison. Quand tu gagnes la série 3-1 contre les Suns, il y a quand même... Bon, c'est vrai que c'est quand même une actu, c'est sûr. Mais bon, les Suns sont arrivés, ils ont pris le match en détente. Les Spurs, eux, ils avaient vraiment envie de gagner. En fait, c'est juste ça qui s'est passé. Donc, c'est un petit peu pareil, c'est dommage pour Phoenix. Le match était horrible. Mais enfin, en fait, ce match, il est plus terrible pour Phoenix qu'il est bien pour San Antonio. Parce que quand tu vois le classement où ils sont 8e, chaque victoire compte pour se détacher, pour ne pas jouer le play-in. Perdre ce match facile contre San Antonio, c'est vraiment la pire erreur que tu pouvais faire. C'est comme l'a dit Frank Vogel après le match, c'est inacceptable. Ouais, c'est une actualité, mais c'est plus une actualité pour les Suns, en fait.
Bah... Non, mais en plus, les Suns, vous avez vu, Bradley Beal, il tourne à combien de points par match depuis 4 matchs ou pas ? Contre Phila, il met 3 points. Contre Atlanta, il en met 12. Et San Antonio, il fait 13 et 9. Le gars, il est à moins de 10 points de moyenne, si je dis pas de conneries, par match sur les 4 derniers matchs. C'est Mister Beal. C'est un clown le type, franchement c'est impressionnant quoi.
C'est pas
après,
ça
il distribue bien le jeu hein. c'est il distribue vraiment pas mal le jeu, c'est vraiment la plaque tournante de l'attaque des Suns en ce moment, genre tout part de lui en attaque, donc ok, il score pas beaucoup mais il est quand même vraiment impactant. Pour sa défense, il est blessé au doigt, je crois, il a une petite une entorse à un doigt, donc son shoot est un peu affecté par ça quoi.
Mais c'est vrai que Bradley Beal, t'as l'impression de, enfin, c'est vrai que sur ces derniers matchs, t'as clairement l'impression qu'il joue un peu contre nature, où on sait que c'est un énorme scoreur, hein, c'est même un pyromane, hein, il fait partie de cette catégorie-là. Mais là, depuis quelques temps, limite, t'as plus l'impression qu'il est là pour faire plus tourner le ballon. Alors, je vais pas dire jusqu'à faire du handball, hein, on va pas non plus exagérer, mais ouais, qu'il manque clairement d'agressivité. Dans ses choix ainsi que bah, peut-être sur sa sélection aussi de tirs. Donc bon, c'est en tout cas situation complexe hein, pour les Suns hein, qui sont désormais 8e à l'ouest à seulement 2 matchs et demi des Lakers. Donc bon, l'affaire est un peu compliquée.
Il y a les Rockets qui remontent fort, il me semble qu'ils sont sur 9 victoires de suite.
Tout à fait.
Grâce à Jalen Green d'ailleurs.
Ouais. Encore une très mauvaise nouvelle.
Eh, c'est vrai. Que... Hein.
Mais oui.
Mais... On peut revenir sur Bradley Beal, s'il vous plaît.
Ouais, vas-y. Tu voulais rebondir.
J'allais dire autre chose. Ouais. Moi, j'allais dire d'autres choses. Est-ce qu'on peut considérer comme une news le fait que Boston ait perdu son game contre Atlanta après avoir mené de 30 points ?
Ah bah un minimum.
Parce que là,
en plus, c'est contre Atlanta en plus. Ça le pire. Ouais.
30 points, hein, plus 30, ils perdent dans le clutch, c'est terrible, mais je pense que c'est Boston a peut-être le meilleur basket de la ligue, mais c'est aussi une équipe quand elle n'est pas dedans, en fait elle peut avoir des moments d'absence, c'est terrible, vraiment, quand ils sont concentrés, ils peuvent mettre un plus 30 à n'importe qui, mais quand ils sont... Quand en plus Derrick White, il fait pas un bon match ou et Tatum et Jalen Brown, ils sont pas, c'est pas pour moi les deux sont pas vraiment des gros leaders. C'est terrible quoi. Ils ont vraiment des gros moments d'absence.
Bah dans ce cas, je te pose alors la question vu que tu, alors je dérive très légèrement, mais est-ce que ce match-là? Alors, je vais faire un peu ma question putaclic, entre guillemets. Est-ce que ce match-là n'est clairement pas l'un des contre-arguments à un Jason Tatum potentiellement MVP ?
Oh oui, mais de toute façon, pour moi, il n'est même pas dans le top 7 du titre MVP.
Ok.
Dans le top 7 ?
Ah, il y a des noms, hein.
Ah bah oui.
Ouais, mais
franchement,
non,
y a
mais quand même.
Non, non, pas du top 7, je rigole.
C'est une grosse liste quand même.
En fait, faut être ça. Faut savoir que Rafik a 3,5. C'est Jason Tatum, les Hawks
et Cam Payne.
Et Cameron Payne.
Ouais, Cameron Payne aussi.
Non. En fait, non. En fait, j'ai confondu avec. Il n'est pas dans le top 7 des meilleurs joueurs NBA actuellement. Mais oui, il est dans la course au MVP, mais pour moi, il est 5. 4 ou 5. Mais jamais de la vie, il est MVP.
Ok. Je ne sais pas si vous souhaitez peut-être rebondir sur les tirs de Rafik.
Il est 5, ouais.
Ouais, 5.
Moi, il joue aux Celtics, donc...
Non, moi, je...
vas-y, Benj.
Je pense juste que tu ne peux pas discréditer un mec sur un match, quoi, parce que c'est... Enfin, la course au MVP, c'est comme sur toute la saison... Si tu reprends vraiment toute la saison, il y a eu un mauvais match de Jokic, un mauvais match de... Enfin, il y a eu beaucoup plus qu'un mauvais match de Doncic. Il y a eu des mauvais matchs de Shea. Enfin, de toute façon, tu peux trouver plein de contre-arguments pour tous les candidats.
Non, mais...
maintenant, pour les Celtics, ce qui est inquiétant, c'est genre, tu fais ta deuxième mi-temps, tu fais 5 ballons, tu fais 4 passes en deuxième mi-temps, tu es à 1 sur 15, à 3 points en deuxième mi-temps aussi. En fait, ça montre juste que s'ils ne mettent pas leurs 3 points, et après, c'est pareil pour beaucoup d'équipes, hein, mais si tu n'as pas tes 3 points, t'es un peu condamné. Et ça, pour les playoffs, c'est un petit peu inquiétant parce que je pense qu'ils sont capables de faire une contre-performance comme ça en playoffs. Ça peut leur coûter une série, ça peut leur coûter un match décisif. Donc, ouais, c'est un petit peu le truc qui est inquiétant. Plus que pour Jason Tatum et la course MVP, je trouve que c'est un mauvais signal pour les Celtics cette saison. C'est pas le premier match dans lequel ils se désintègrent comme ça. Je sais plus qui avait dit, je sens que c'était un petit peu un truc qui arrive aux Celtics régulièrement cette saison. Je sais pas si c'est régulier en tout cas, mais. C'est arrivé plusieurs fois et c'est assez inquiétant pour les playoffs, c'est sûr.
En fait, c'est le problème, c'est qu'on pense toujours qu'ils vont progresser, les Celtics. T'as l'impression qu'on se dit, chaque année, ça va être leur année, ça y est, ils vont avoir appris des leçons du passé, enfin, ils vont commencer à être plus durs, plus... Et t'as l'impression qu'en fait, ils retombent tout le temps dans leur travers, en fait. On dirait toujours des gamins, alors que les mecs sont censés être à leur prime en carrière, on va dire, être des bonhommes, quoi. Et t'as l'impression qu'ils font toujours les mêmes erreurs mentales que lorsqu'ils avaient 23 ans, 22 ans, et qu'ils faisaient leur première série de playoffs et autres. Et en fait, on se rend compte là avec ce match-là et d'autres qu'il y a eu cette année, qu'en playoff, ben, s'ils retombent contre un Jimmy Butler qui rentre dans leur tête, ou je sais pas, il y a qui d'autre comme équipe, hein, même par exemple, je sais pas, les Bucks qui vont être durs sur eux ou autre, ben, ça peut sortir vite, quoi.
Ouais, bon. Ouais,
je pense quand même qu'ils sont favoris pour aller en finale NBA à l'Est, hein, mais je suis pas tout à fait d'accord avec cette année. Je trouve qu'ils sont quand même vraiment bien meilleurs cette année, notamment dans le fond de jeu.
Mais
il y a des failles mentales, c'est sûr.
Bon, on verra bien de toute façon la suite pour Boston. Eh bien, parfait, messieurs. Peut-être, Quentin, juste avant d'enchaîner, tu voulais peut-être rebondir sur le cas Bradley Beal. C'est vrai qu'on a un petit peu divagué.
Non, mais c'est bon.
c'était surtout pour ne pas parler de Jalen Green, je crois.
Ouais, okay. Bon, bah, ça marche. Eh bien, écoutez, messieurs, ce que je vous propose de suite maintenant, ça va être... Pour le débat hein, de cette semaine, hein, comme d'habitude, hein, nous avons le droit à notre petite chronique de Loris, alors qui est légèrement plus long que d'habitude, mais vous comprendrez pourquoi, parce qu'il y a quelques petits messages qui vont être passés. Je vous laisse de suite l'écouter.
Bonjour à tous nos chers auditeurs et bonjour à toute l'équipe Forever, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loris, aka Catch and Shoot, et chaque semaine, ou presque, je reviens sur un sujet d'actualité, un coup de cœur ou un coup de gueule. Cette semaine, émission spéciale avec un invité spécial.
Benjamin Mopèche. Il suit les San Antonio Spurs à travers les États-Unis. Victor Wembanyama le connaît personnellement. Et en plus, il a de beaux cheveux. C'est Benjamin Mopèche.
Benjamin Moubèche est donc notre invité de cette semaine. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, Benjamin est donc journaliste indépendant en direct de San Antonio. Okay. Mais vous pourrez également le retrouver sur Reverse Magazine, le D-Sport et The Free Agent. Les plus anciens se souviendront également de son site l'analyste.fr qui a fait les beaux jours de Twitter. Et désormais, il a la tête d'un podcast aussi incroyable que Forever, le podcast Moob Deep. Non, promis, je ne gratterai pas de texte sur un mob deep type beat, on n'est pas là pour ça, enfin.
Plus fort que le King Joker, ou bien le carré d'As, tu parking, poster, et ça dans tout Texas. J'arrive comme Wimpy, Anakin, Phantom et la menace. On prend la money et la win, tout ça dans la besace. On la scène cowboy, je casse des gueules comme Stallone. Poste et je la talonne, posé dans le canyon de San Antonio à Marseille. Connexion grande vitesse, nos problèmes sont forever. Si c'est Benjamin Moubèche.
Ah ben non, j'ai pas pu m'en empêcher en fait.
La mixtape arrivera un jour, promis.
Lourd. Et croyez-moi que la présence de notre invité sur Forever me touche particulièrement, puisqu'alors que je comptais même pas 500 abonnés sur les réseaux, ce bon Benji a accepté l'invitation de mon modeste média et est venu échanger sur ma chaîne avec bienveillance, avec toute la gentillesse qu'on lui connaît. Et comme j'ai pas eu l'occasion de te remercier de vive voix, j'en profite donc pour le faire aujourd'hui dans cette chronique. Donc Benjamin, merci pour la force et le soutien. Parce que mine de rien, Mister Moubèche est devenu en un rien de temps la référence sur les Spurs en France et il est rentré dans la catégorie de ce que j'appelle les visages de franchise FR. Comme Kamara Tchachou avec les Hornets, Logdin avec les Pistons, Stone avec les Celtics et Catch and Shoot avec le Magic. Je me suis auto-proclamé dans cette catégorie grâce à la technique du putsch, une technique chère à Vladimir. Pas Poutine, hein, notre Vladimir de Forever à nous. Hein. L'ascension de Benjamin est si fulgurante qu'elle lui ouvrira peut-être de nouvelles portes avec pourquoi pas, je sais pas, moi, un poste sur la chaîne L'Équipe par exemple, avec des interventions sur le basket et la... on me dit dans l'oreillette qu'il faut d'abord traiter les sujets suivants. Paris Saint-Germain, objectif Champions League. Mbappé, et s'il était parti pour rester ? Mbappé a-t-il chié mou ce matin ? Mbappé, un café avec ou sans sucre ? Luis Enrique, considère-t-il Mbappé comme son enfant non désiré ? Et enfin, variante, Mbappé, bientôt président de la République. Et peut-être après que Benjamin pourra nous parler des Spurs, ah ben non trop tard, désolé, il y a la master de biathlon direct de Le Fion. Oui, c'est une vraie ville en Haute-Savoie. Quoi qu'il en soit, sache que pour ma part, je suis admiratif du boulot accompli et que j'espère que pour toi, l'avenir sera radieux. En tout cas, on te le souhaite. Hein. Dans tous les cas, pour moi, you're the real MVP et tu as même le potentiel d'entrer dans le Hall of Fame du journalisme et bien plus. Tiens, puisqu'on parle de potentiel, admirez l'envergure de la transition au passage. Aujourd'hui, on va se pencher sur le fameux débat du prisme du potentiel et de l'opposition potentiel-talent-fit. C'est vrai que depuis quelques années, on entend parler de potentiel par-ci, potentiel par-là, potentiel, potentiel, potentiel. Potentiel. Mais pourquoi emploie-t-on ce terme partout désormais ? C'est vrai quoi, il y a 10-15 ans, seuls les spécialistes d'une draft ou les scouts pouvaient employer de tels termes, mais avec l'explosion des réseaux sociaux, félicitations à vous d'ailleurs, mais niquez ma vie, la démultiplication des vidéos et du contenu sur le net, n'importe qui peut se pencher sur l'analyse d'un prospect chaque année au vu des futurs drafts. Et il y en a qui le font très bien comme Envergure, Tito Encronier du Café Crème Sport, qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé et qui m'a donné beaucoup d'infos pour cette chronique et que je remercie encore, ou encore Symbiose. Et d'autres qui font très mal le boulot, comme moi. Oui, je m'en suis jamais caché, je mate pas la NCAA sauf vite fait pendant la March Madness, comme un Français moyen qui se trouve une conscience politique pendant 2 semaines tous les 5 ans. Je regarde très peu de basket européen également, et la seule façon dont j'apprends à connaître certains joueurs en vue d'une draft, c'est dans les carrières NBA 2K avec les classes de draft créées par la communauté. Alors je vous dis pas comment j'étais fier quand j'ai vu Arthus Zargas nous casser le cul à la dernière Coupe du Monde, parce que pour vous, c'était juste un joueur flashy et sympa en sortie de banc, mais pour moi, c'était le 6ème homme dynamiteur en sortie de banc d'Orlando Magic saison 2028-2029. Attendez, je vais rentrer, il commence à pleuvoir là. Pour revenir au sujet, difficile de trouver LA solution. Choisir entre le plafond potentiel ou le plancher réel d'un joueur dépend de nombreux paramètres à prendre en compte. Le fit du joueur dans un effectif, son âge, son passif à NCAA ou en pro, mais également la place d'une équipe dans une draft, son nombre de picks et l'état de la franchise à l'heure de la draft. Qu'elles sont en reconstruction, outsider, contender, etc. On ne peut pas dire qu'il est de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Par ailleurs, combien de joueurs se font défoncer au bout de 2 saisons et demie pour ensuite tout exploser sur leur passage comme Tracy McGrady, Kobe Bryant ou Anthony Bennett ? Quoi, je dis une connerie là ? Il y a qu'à voir Jalen Green qui a pris tarif de part et d'autre, dont par votre humble serviteur, mais à juste titre quand même, mais qui depuis un bon gros mois monte de plus en plus en puissance et fait carburer les Rockets, qui sont sur 9 victoires consécutives à l'heure où j'écris cette chronique, et qui pourraient même se faufiler dans la course au play-in. Certaines fois, ce n'est juste pas le fait qu'un joueur n'a pas le niveau, mais juste qu'il n'entre pas dans les cases de l'NBA. Et c'est d'ailleurs en discutant avec Titouan que le monsieur m'a lâché le plus beau des exemples. Pour lui, Kenneth Lofton Jr., qui une fois de plus, c'est un secret pour personne, moi j'adore ce joueur, est un basketteur plus talentueux que Mo Wagner. Alors effectivement, oui, ça peut s'entendre. Pourtant, il y en a un qui a fait sa place à NBA et pas l'autre. Juste parce que Mo Wagner a des skills qui correspondent plus au jeu de la NBA. Activité défensive, hustle play, qualité physique, athlétique. Ce qui n'est pas le cas de Lofton Jr. qui, par son jeu undersize, son manque de cardio et le fait qu'il puisse moins stretch, ne l'aide pas à faire son trou. Et pourtant, qu'est-ce qu'il est bon mon gros nounours. Et d'ailleurs, ok, je comprends les aspects physiques qui sont primordiaux dans le sport professionnel actuel, mais c'est pas parce que Bol Bol met 2-3 tirs à 3 points et sait faire 2 dribbles entre les jambes qu'on en ferait un Victor Wembanyama. Merde. Faut pas se mentir, les valises de highlight qu'on nous pond chaque jour biaisent le jugement de chacun d'entre nous, sauf ceux qui savent lire entre les lignes. Et je vous vois ceux qui ont annoncé un Austin Rivers All-Star après ses mixtapes Ball is Life, hein. Le seul message que j'aurai à faire passer ici, c'est d'être patient avec chaque joueur, car c'est comme tout. On n'a pas les mêmes capacités d'adaptation au monde professionnel, ni la même courbe de progression. Et c'est pas moi qui le dis, c'est dans le livre. Hein. Donc patience, parce que l'an dernier, j'ai pourri Jalen Suggs comme never, et cette année, il sera peut-être All Defensive Team. Messieurs, je vous laisse désormais la parole pour nous éclairer sur ce fameux prisme du potentiel. Très certainement que j'ai oublié pas mal de choses, car je ne maîtrise pas de ouf le sujet. Mais après tout, Darvin Ham, lui non plus, ne maîtrise pas grand-chose, et pourtant, il est toujours là.
Merci Loris. Waouh. C'était long, hein. Il avait des choses à dire.
Je pense qu'il a fini le podcast, hein, ça y est.
Voilà. Merci, c'était Forever. Allez, à la semaine prochaine. Merci bien, Loris.
C'était très fort, quand même.
Ouais, bah, alors, il y a une bonne partie. Alors, tu veux te rebondir un peu sur ta partie, hein, du coup, ta première partie, peut-être, déjà sur le vocal.
Ouais, du coup, ouais, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de recevoir autant d'amour. Donc, déjà, merci beaucoup à Loris. Bon, il s'est pas mal amélioré en termes de rap, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas quand t'as vu les débuts de quand il commence à faire un petit peu de freestyle autour de la NBA, là ce qu'il fait maintenant sur des petits type beats en mode Mobb Deep, c'est assez impressionnant. Non mais j'avoue, je kiffe bien, j'apprécie beaucoup la partie, c'était surprenant, c'était bien fait, c'était monté, je pense que ça a dû lui prendre bien 2 heures de sa vie et du coup j'apprécie pas mal le geste et en plus le débat qui part en fait est plutôt cool et lié à ce que je fais à San Antonio parce que du coup, les Spurs, c'est que du potentiel. Donc, non, j'ai bien kiffé la transition, j'ai bien kiffé tout ça. Merci infiniment, Loris, ça fait super plaisir et j'espère que les auditeurs auront autant kiffé que moi, mais j'en doute.
Et du coup, bah, on peut en profiter, vu que la transition est toute faite. Du coup, toi, si. Alors, pour reprendre justement le sujet, hein, alors, la genèse un peu de ce sujet, c'est suite notamment au podcast de JJ Redick et de LeBron James, hein, qui aborde ce sujet justement la semaine dernière. Comment dire, voilà, quelle serait le bon, enfin, est-ce que pour toi ce serait plus en effet d'être sur ce qui se fait plutôt actuellement, donc c'est-à-dire de lorsque tu vas pick, en tout cas que tu vas drafter quelqu'un, est-ce que tu vas juste regarder en effet beaucoup plus le potentiel qu'autre chose? Parce que si cette personne explose, bon bah ça peut être tout bénéf pour ta franchise, que ce soit sportivement comme financièrement. Ou est-ce que tu vas peut-être plus regarder ce qui va plutôt fitter? Voilà, quel est un peu ton rapport par rapport à tout ça?
Bah, en fait, tout dépend de la situation. C'est-à-dire que si tu es une équipe en reconstruction type Spurs, par exemple, que tu es très jeune, en fait, ce que tu cherches, c'est à élever le plafond de ta franchise, à en fait faire évoluer le potentiel de ta franchise. Donc, par exemple, tu vas drafter au potentiel. Donc là, c'est facile quand il y a Victor Wembanyama, par exemple. Mais bon, il y a d'autres exemples dans lesquels tu aurais pu avoir des choix contestés. Bon, je pense à la draft précédente où il y avait Holmgren, Banchero et Jabari Smith. Là, la question s'était posée justement du fit, du potentiel. Et dans ces cas-là, en fait, systématiquement, quand tu es une équipe très jeune qui doit encore construire son projet, en fait, tu prends au potentiel parce que tu veux que ces joueurs-là, les premiers qui sont dans ta franchise, se développent au maximum. Mmh. Et c'est un petit peu le premier cas. Et du coup, là, je suis complètement type potentiel. Et quand tu vois ce que fait le Thunder, par exemple, ça marche très bien. Je prends l'exemple de la draft 2021. Ils prennent Josh Giddey et Treyman en 6 et en 18. Deux joueurs qui jouent au même poste, qui jouent sur des postes à peu près similaires à celui de Shea, qui est déjà là depuis une ou deux saisons. Donc en fait, il draft vraiment potentiel. Et pour le coup, cette méthode-là a très bien marché pendant toute la carrière de Sam Presti. Et je suis plutôt team. Si ça marche pour une franchise NBA, je monte dans le bateau, il n'y a pas de problème, je suis ça. Après, il y a une autre situation, c'est celle dans laquelle tu es une équipe qui veut être compétitive. Et du coup, tu n'as pas envie de. En fait, tu as déjà tes stars, tu as déjà des joueurs qui sont accomplis. Et donc là, tu peux drafter au fit. Donc, tu prends l'exemple, par exemple, des Kings, quand ils ont drafté Keegan Murray. Beaucoup de gens ont crié au sacrilège parce que ce n'était pas le choix du potentiel, parce que c'était le choix du fit, justement. Mm-hmm. C'était l'idée d'apporter un joueur qui a déjà un skill set suffisant pour jouer en NBA et qui les a aidés à se qualifier en playoff. Et à ce moment-là, le choix est justifié par le fait que tu es Sacramento, tu veux retrouver les playoffs, tes joueurs sont déjà à un stade assez avancé de leur carrière. Donc, tu ne veux pas en fait, prendre le temps de développer un autre joueur, tu veux un mec qui est efficace maintenant. En fait, ça dépend de la situation de ta franchise, dépend des joueurs disponibles. Mais de manière générale, je dirais quand même potentiel avant tout, en particulier quand tu construis un projet.
Bon, écoute, justement, alors, tu as ce cas de figure-là. Enfin, t'as les deux situations que t'as exposées, mais derrière, tu vas avoir. Alors après, ça va être aussi un peu le pif ou en tout cas l'expertise aussi des scouts, hein, qui notamment veillent justement sur les joueurs tout frais qui vont venir dans la grande ligue. Mais tu te retrouves toujours avec des équipes qui arrivent toujours peut-être mieux à drafter que d'autres. Et c'est là où tu as peut-être aussi ce rapport de à la fois de potentiel talent, mais aussi de besoins qui ne collent pas forcément. Je ne sais pas, du coup, toi peut-être Quentin, quel est ton avis un peu sur la question?
Bah, moi, je vais être d'accord sur le fait que d'abord, d'abord drafté au potentiel. Enfin, quand je dis drafté au potentiel, attention, hein, quand t'es dans les hauts choix, parce que bon, après, forcément, ça va plus être du fit, même si, bah, du coup, on a déjà eu là, justement, l'exemple Keegan Murray avec les Kings, où c'était quand même un pick 4, si je dis pas de bêtises.
Donc bon, c'est ça.
Tu fais au fit dans un pick, avec un pick 4, tu es en mode bon. Je trouve ça pas ouf, mais au final, eux ont eu raison. Donc après, c'est comme tu disais, Vlad, tu vois, si t'as le bon management, le bon front office, les bons scouts, bah là, oui, ça part. Peu importe le potentiel du mec, je pense, tu vois. Genre, ouais. si ça fit bien dans l'équipe, que le mec. Je sais pas trop comment. J'ai perdu mes mots, tu vois.
Ouais, mais parce que tu vas avoir en effet le bon fit. Alors après, il y a peut-être aussi une question d'environnement qui est peut-être aussi propice à ça.
Ouais,
et
voilà.
Je pense notamment, bah, les Spurs, ça reste quand même une institution qui n'est plus, dont la réputation n'est plus à faire depuis des années. Voilà, est-ce qu'il y a aussi des environnements qui sont beaucoup plus propices à ce type de développement, ou peu importe que ce soit à la fois sur du fit, enfin en tout cas sur un profil que tu choisis purement par adéquation à tes besoins, comme si tu recrutais quelqu'un purement au potentiel. Voilà, finalement l'environnement est tellement serein et tellement bon et sain que de toute façon le gars va être capable de se développer et l'équipe va être capable aussi de progresser. Parce que moi,
j'allais rebondir sur ça. Pour moi, l'environnement, c'est ultra important. Je vais parler par rapport à moi. La seule période où j'ai vraiment suivi ces délires-là, parce qu'au final, c'est un sujet qui me branche. Je pense que ça intéresse les gens en réalité que quand ça concerne vraiment ta franchise. Mm-hmm. Et quand ta franchise est dans les bas-fonds de la ligue, c'est là que tu commences à zioter un peu ce qui se passe chez les potentiels. Et moi, la période, on va dire, après Kobe, plutôt Kobe, fin de carrière, aux Lakers, du coup, il y avait toujours ce truc qu'il fallait drafter les futurs prospects, les futurs potentiels stars de la ligue. Et au final, tu te rends compte que sur ceux qu'on a draftés, donc il y avait D'Angelo Russell qui avait une hype de malade mental quand il est drafté, Lonzo Ball qui était censé être le meneur du futur, t'avais Ingram qui était le futur Kevin Durant, et puis tu te rends compte qu'au final, les trois aujourd'hui, tu regardes où ils sont. Russell, il est revenu aux Lakers, on veut s'en débarrasser pendant un moment. Ingram, c'est un lieutenant, et Lonzo Ball, il a disparu. Et c'est pas parce que les gars n'ont pas de talent, parce que les trois individuellement, on est tous d'accord pour dire que c'est des bons joueurs de basket, plus des beaux joueurs de basket du coup en plus que des joueurs utiles dans la ligue actuelle. Mais au final, l'environnement des Lakers fait que ils n'ont pas pu grandir ensemble, parce qu'il a fallu faire venir des stars directement, donc ça a empêché la progression de ces jeunes là et au final, les Celtics qui ont été dans le même cas que nous et qui eux ont laissé le temps à Tatum, ont laissé le temps à Jalen Brown, et ben on a vu où est-ce que ça a mené. Et au final, tu regardes ceux qui ont drafté les Lakers et ceux qui ont drafté les Celtics, et puis tu te dis merde, est-ce que c'est eux qui ont bien drafté, nous qui avons mal drafté, ou est-ce que c'est l'environnement qui a fait qu'eux, ils ont réussi à mieux se développer que nous. Et j'ai oublié Julius Randle en plus dans le lot, hein, qui aussi était envoyé au Knicks, Kai Kuzma aussi, tu vois, donc il y en a eu. Et je pense que ouais, donc l'environnement ça joue. Il y a des villes, je pense, que t'es plus propice à te développer que d'autres. Genre Los Angeles et New York, c'est clairement des bourbiers, par exemple. Et puis oui, t'as aussi l'entraîneur, les besoins de l'équipe. Si t'arrives dans une franchise où t'arrives à te greffer plus facilement, c'est aussi, tu vois, les Pistons actuellement. Je vois des mecs qui arrivent là-bas, je me dis merde, tu vois. Alors que Cunningham, je suis sûr que c'est un bon joueur de basket, mais comment tu veux réussir à progresser dans cet environnement-là? Et un gars qui est plus fragile comme notre français Kylian Hayes, que j'aime bien charrier, ou encore Sekou Doumbouya, les mecs, ils ont sombré. Parce que tu peux pas, en fait, progresser dans un environnement comme ça.
Ouais.
Déjà, pour moi, c'est très compliqué d'y répondre, parce que ça dépend de tellement de paramètres. Parce que, par exemple, on dit tout à l'heure, on disait que quand on est une franchise qui souhaite augmenter son plafond en termes de potentiel, parce que on a une équipe jeune et que on vise le long terme. Je pense que même une équipe qui a le premier choix, parce que comme les Warriors, hein, évidemment, avaient le premier choix, le deuxième choix, alors qu'il y avait Curry, Klay Thompson, Draymond Green. En fait, même dans cette situation-là, une équipe qui joue le titre et qui a le premier choix, elle va drafter le joueur qui a le plus gros potentiel, je pense. Elle va drafter Victor Wembanyama. Elle va pas drafter un joueur. Ouais, bon, on a besoin d'un joueur qui va fit, qui va bien fit en sortie de banc avec. Je pense que là, il y a quand même une directive, c'est drafter le meilleur joueur, potentiel ou pas potentiel pour moi. Et ouais. Ensuite, pour moi, il y a deux types de potentiel. Pour moi, il y a le potentiel physique et le potentiel mental. Quand je dis potentiel mental, c'est la capacité à atteindre une maturité rapidement. Et pour moi, si je devais drafter au potentiel, je serais plus intéressé par le deuxième type de potentiel, le potentiel mental, que le potentiel physique. Parce que on a eu tellement de joueurs qui ont été draftés très haut pour, soi-disant, du potentiel physique et qui ont tenu 3 années, 4 années en NBA, ou qui sont encore en NBA et se font bolosser par des mecs qui ont 37 ans, 38 ans. Mmh. Alors que c'est des gros potentiels physiques. Wembanyama, c'est un gros potentiel physique, mais c'est un gros potentiel mental. Parce que Wembanyama, le mec, il a moins de 20 ans, il est déjà très mature pour son âge.
Ouais, bien sûr.
Et mais... on a vu des joueurs comme, des mecs comme JD Jackson, on me disait ce mec-là, c'est un énorme potentiel physique, il va tout casser. Le mec, il sait même pas jouer au basket.
Mmh. Bah, bon, le parfait exemple, c'est déjà dans ton équipe, toi, au Bucks, Giannis, c'est clairement un gars qui est pris sur le potentiel au départ. Enfin,
potentiel physique, mais c'est aussi
ouais, mental ouais, mais, aussi, parce que le mec a faim.
Mentalement, il a
envie d'apprendre. C'est un bosseur, ouais.
C'est un bosseur. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est un fast learner. C'est quelqu'un qui sait se remettre en question, etc. Et moi, je serais plus intéressé par un mec qui a ce potentiel-là de grandir rapidement, mm-hmm, que quelqu'un potentiel physique petit con.
Mais tu vois, pas que potentiel physique psycho, parce que moi, tu vois, j'ai pensé à un gars qui a été drafté devant Doncic, et je parle pas forcément Dayton, moi, je pense plus à Marvin Bagley. Marvin Bagley, c'est un gars de base qui avait un potentiel de malade. C'était quand tu le voyais en jeune, les mecs disaient qu'au basket, il était fort, mais le mec, c'est un petit con. En fait, c'est un mec qui bosse pas, il a pas bossé, il est arrivé dans la NBA, il s'est foiré complet. Alors que, à l'époque, quand il est drafté aux États-Unis devant Doncic, t'as des gens qui gueulent un peu, mais il y en a plein qui disent, mais vous vous rendez pas compte de qui c'est ce mec-là, en fait. Et au final, on voit aujourd'hui qu'il flop, quoi.
90% des gens étaient quand même d'accord pour dire que c'était très bizarre qu'il arrive devant Doncic, y compris les fans des Kings, y compris les Américains. Les gens comprenaient pas. Il y a plein de mecs comme ça qui étaient des potentiels physiques, qui ont été draftés très haut, où les gens comprenaient pas pourquoi ils avaient été draftés aussi haut. En fait, je trouve qu'il y a plein de contre-exemples à tout ça. Enfin, quand on parle de potentiel physique, il y avait une mentalité de toutes les guillemets du monde, petit con, du coup. Mm-hmm. Je pense à Joel Embiid, par exemple. Pendant des années, on a douté de son mental, mm-hmm, parce qu'il était constamment blessé, on parlait de problèmes d'hygiène de vie, etc. J'ai envie de dire que ça a fini par fonctionner plutôt pas mal. Et surtout, la question du potentiel, en fait, et là où c'est difficile, c'est que le potentiel, c'est systématiquement un pari, que ce soit physique, technique, mental. Et je trouve que c'est surtout mental, parce que un joueur peut faire l'illusion pendant une année à la fac, pendant des entretiens en processus pré-draft, etc. En fait, c'est compliqué pour une équipe de dire « Ce joueur, je sais qu'il va tenir pendant 20 ans en NBA avec un mental d'acier, tout donner, accepter le rôle qu'on va lui donner, quoi qu'il arrive, etc. » En fait, c'est compliqué d'évaluer ça en amont. Donc en fait, plus qu'ailleurs encore, quand tu draftes un joueur, tu es obligé de faire un pari sur le potentiel mental. Et d'ailleurs, la plupart des joueurs qui arrivent quand même à un certain niveau, surtout ceux qui n'ont pas le physique en l'occurrence, mais la plupart des joueurs qui arrivent à un haut niveau de NCAA et qui sont draftés en NBA ont de toute façon un vrai potentiel mental. Parce que pour arriver à ce stade, pour arriver dans les plus grandes facs, pour être starter là-bas, il faut déjà en fait s'être battu pour ce poste-là pendant quasiment toute sa vie. Alors il y a des exceptions, genre je sais pas, DeAndre Ayton, je sais pas comment il y est arrivé, je sais pas s'il avait le mental avant et que c'est parti ensuite ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, pour les joueurs qui sont pas fait comme DeAndre Ayton, qui est vraiment une machine de guerre physiquement, il faut impérativement ce côté mental. Donc, je trouve que c'est trop facile en fait de dire à posteriori, il y a le facteur mental qu'il faut prendre en compte, parce que c'est un truc qui est très difficile à évaluer, c'est un truc qui change très vite, et c'est quelque chose que tu peux quasiment pas prédire, parce que ça revient à la question de l'environnement qu'on avait plus tôt. Si on prend Darko Milicic par exemple dans les années 2000, c'est l'environnement aussi qui lui a fait défaut dans son développement, où à Détroit il n'arrivait pas à se sentir à sa place, où le coach ne voulait pas le faire jouer. Et donc, l'environnement a complètement affecté le côté mental et l'a progressivement détruit. Ou pareil à Portland avec Greg Oden, où c'était très compliqué aussi sur le côté mental. Donc, il y a encore cette question de l'environnement qui revient à ce niveau-là aussi. C'est pas juste... c'est pas facile d'évaluer le potentiel mental d'un mec et de déterminer s'il va craquer ou non, quoi.
Justement, je voulais te poser la question parce que en fait, il y a quelque chose qu'on oublie parfois aussi, qu'on oublie de penser, c'est que c'est des gars qui sont draftés super jeunes.
Oui.
Et puis, il y a une différence entre, tu sais, quand t'es gamin et que tu te dis mon rêve c'est d'aller en NBA, et une fois que t'y es, et puis tu sais que c'est tes priorités à changent, tes goûts ils changent aussi parfois. C'est dans ta vie, il y a des moments, même nous, en toi, dans un niveau beaucoup plus bas ou autre, il y a des périodes de ta vie où t'étais plus branché basket que d'autres. Et ces mecs-là, peut-être que, par exemple, DeAndre Ayton, tu vois, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, le basket, c'est une priorité dans sa vie, tu vois.
Bah, tu te tapes un mur, hein.
Bah oui, et si le mec, en fait, ça se trouve que quand il était à l'université, le gars, il avait un potentiel de ouf, ou au lycée, et le gars, il était à fond dans le basket ou quoi, après, il se retrouve 5 ans après en NBA, et puis ça le fait chier, en fait, de faire des matchs, 82 matchs par saison, enfin, de s'entraîner tous les jours, tu vois. C'est, au bout d'un moment, les mecs, ils ont pas tous la même réception à ça et la même évolution personnelle dans leur vie privée aussi, qui fait qu'ils arrivent à suivre tout ça. Je sais pas toi ce que t'en penses du coup de tout ça, parce que comme t'es plus proche aux États-Unis et tout, est-ce que c'est quelque chose que tu vois parfois chez des joueurs, que tu les sens désintéressés plus que d'autres ou autres, quoi?
Bah, quand t'es sur place en fait et que tu connais les pas personnellement, mais que t'as l'habitude de voir les joueurs, t'as l'impression que tout le monde, littéralement tout le monde en NBA, est vraiment un gros bosseur. En fait, quand tu les vois à l'entraînement, il n'y a vraiment pas doute sur le fait que tout le monde travaille. Après, je ne sais pas si c'est que le cas des Spurs, parce que je ne vois pas les entraînements de toutes les équipes. Et puis même, tu ne sais pas exactement ce qu'il y a derrière le rideau. Le cas de DeAndre Ayton, il est intéressant justement parce que je n'arrive pas à savoir. Je trouve que, en fait, vu qu'il fait une mauvaise saison et que tu as l'impression que c'est mental, c'est peut-être un peu facile de dire qu'il est désintéressé. Et je ne sais pas s'il l'est ou non, justement. Je ne peux pas dire qu'il est intéressé par le basket. Et c'est là où tu vois un petit peu la limite de ce truc-là, c'est que quand on parle de ce genre de choses, on est un peu obligé de spéculer. Parce qu'on ne sait pas en fait comment il se sent mentalement, comment est-ce qu'il aborde les entraînements, etc. Est-ce que il fait pas du basket sa priorité, ou est-ce que il y a un autre blocage? Est-ce que c'est juste il est pas assez investi, mais de dire qu'il est désintéressé c'est trop extrême. En fait, c'est très dur à juger ce côté-là, tu vois. Même quand tu es sur place, mais j'ai comme sensation, et c'est ce que disent les coachs, les assistants, etc., que tous les mecs qui sont dans des rosters NBA, en fait, c'est des mecs qui ont vraiment un mental. En fait, on oublie que entre le moment où tu as 8 ans et tu dis je veux devenir joueur NBA, et ce moment-là où tu prends peut-être le mur de jouer 82 matchs par saison, il y a quand même tout le côté où tu es au collège, au lycée, où tu es à la fac. Et aux États-Unis, c'est big tout ça. Le lycée, c'est big. La fac, c'est big. Donc, pour arriver jusque-là, il faut que tu prennes des murs avant ça. Et tous les joueurs qui arrivent en NBA, en fait, ces murs-là, ils les ont traversés quand même. Et encore une fois, les colosses ont un avantage et parfois, ils enjambent ces obstacles-là. Mais la majorité des joueurs qui vont en NBA et qui ensuite échouent potentiellement pour le mental sont des joueurs qui, avant, ont montré une vraie résilience, ont montré une vraie capacité à travailler et à vraiment se sacrifier en fait pour ce rêve qui, plus qu'un rêve pour eux, est devenu un projet et qu'ils ont réussi à accomplir en fait. Donc je pense que cette partie-là mentale, elle est très difficile à jauger, et que 98% des joueurs NBA sont des mecs qui sont des bosseurs, mais incroyables, vraiment. En tout cas, c'est la sensation que j'ai depuis les États-Unis et en voyant les Spurs s'entraîner à chaque fois.
Alors justement, pour éviter d'avoir, enfin pour minimiser au maximum l'incertitude, on va dire sur un plan psychologique ou mental, là je vais refaire un petit peu référence au premier épisode de cette saison où on abordait justement la formation des États-Unis suite aux déclarations notamment de Steve Clifford, qui avait quand même pas mal fait parler. Est-ce que justement pour éviter, en tout cas pour limiter au maximum le risque sur l'aspect mental, est-ce que aussi l'un des leviers que les scouts ou en tout cas les front office devraient peut-être un peu plus mettre en avant, ce qui était d'ailleurs l'usage il y a encore quelques années, bon, faut quand même remonter à une bonne grosse quinzaine d'années, c'est pourquoi ne pas essayer tout simplement d'avoir des joueurs qui peut-être ont un cursus notamment universitaire un petit peu plus long et non pas forcément, même si on sait que le Saint Graal pour tous, c'est en effet d'accéder à la NBA, mais est-ce qu'il y a certains profils qui ne mériteraient pas, pourquoi pas, de refaire une année supplémentaire dans leur programme, hein, parce qu'il faut quand même rappeler que les universités, c'est vraiment une institution, donc vraiment avec un programme mise en place sur lesquelles nous aussi tu vas avoir des notions, on va dire de loyauté entre guillemets vers ta fac. Enfin, c'est vraiment un monde parallèle, hein, le monde de la fac, mais est-ce que, enfin, c'était vraiment le, il y a encore quelques années, c'était vraiment la référence pour pouvoir préparer au maximum les joueurs. Est-ce que ça ne mériterait pas justement à ce que certains joueurs, dont on a peut-être des incertitudes, bah, de voir pour qu'ils puissent peut-être prolonger leur expérience NCAA ou même à l'étranger, hein, peu importe, de sorte à ce qu'ils soient peut-être encore plus prêts pour le monde professionnel. Est-ce que ce ne serait pas un levier à activer ça?
Bah, le problème, c'est que est-ce que ça va intéresser, d'une part, les front office qui veulent recruter de plus en plus jeunes, c'est devenu la tendance bah, depuis une quinzaine d'années, quoi. Mm-hmm. Parce que bah, là, maintenant, tu regardes dans une draft, les plus hauts choix, ça va être des mecs de 19 ans.
Oui, bien sûr.
Voire 18 ans, voire 18 ans au moment de la draft. Mm-hmm. Ensuite, bah, bon, là, ils ont mis en place, pas partout, je crois, pour les, pas dans tous les états, mais les rémunérations là, avec oui. les publicités.
Ouais, oui, les nils, ouais. Publicités,
ouais. Donc, il y avait ça aussi, je pense, qui devait décourager certains à prolonger le cursus universitaire parce que, bah, tu veux gagner ton oseille, voilà, tu veux pas qu'il se fasse des millions sur ton dos, tu veux ta part du gâteau, ça, je comprends. Peut-être que maintenant, avec ces avantages-là, peut-être que ça a prolongé, mais passer en NBA, quand t'es jeune, ça peut aussi t'offrir tellement d'avantages en dehors du terrain, tu vois. Mmh. La visibilité.
Ah, je pense qu'il y a surtout le... Pardon, mais je voulais rebondir sur le côté salaire, en fait. C'est vraiment ça, c'est que même avec les NIL, en fait, tu peux mettre tu veux. Si t'es un 15e choix en NBA, tu gagnes 3 millions la saison et t'as un contrat garanti pendant 2 ans plus 2 ans de team option. Donc fatalement, si tu sais que tu peux être sélectionné, j'ai envie de dire, tu te présentes parce que t'as pas envie de risquer la blessure l'année suivante. Parce que, en fait, une fois que tu sais que t'as de l'intérêt des équipes, cet argent, il est à portée de main. La NBA est à portée de main. T'as le contrat garanti. Tu te présentes. Donc en fait, c'est les joueurs là-dedans qui ont intérêt à se présenter très tôt. Donc je suis pas sûr que eux soient réceptifs à l'idée de rester plus longtemps, même si ils faciliteraient la chose, je suis d'accord, mais en fait, l'argent est tellement énorme en NBA par rapport à la NCAA que c'est un petit peu compliqué pour eux, ouais.
Ouais, c'est bah. Le système qu'il faudrait réformer, parce que c'est pas que les franchises qui veulent drafter des potentiels de 18 ans, c'est aussi bah, l'attrait pour l'argent, c'est
le marketing.
C'est l'attrait pour ces joueurs de rentrer, bah, déjà pour, de jouer en NBA qui est leur rêve et de toucher directement l'argent, de mettre entre guillemets la famille à l'abri, etc. De sécuriser le bac, quoi. Mais c'est
après
reformer.
Après, t'as aussi le fait qu'aux États-Unis, c'est le système en entier qui est peut-être arrivé à au bout. Le côté de enfin universitaire, tu vas directement NBA ou le enfin alors qu'à l'étranger par exemple nous on a vu Wembanyama, il a joué en pro en France, là on annonce Rizaché qui joue en pro aussi, même Sarr il joue pro en Australie, et au final c'est des gars qui sont habitués à se confronter à un niveau professionnel avec des adultes qui ont 10 ans de plus qu'eux, à avoir un... C'est pas la même chose que de jouer quand même en championnat universitaire, hein. Bien qu'il y a de la pression, non, c'est ou autre, c'est pas pareil. Comme c'est pas pareil que Scoot Anderson là, qui vient de G League. Tu vois, la G League, c'est un niveau aussi qui est inférieur. Et au final, parfois, bah, maintenant, la barrière, quand ils arrivent en NBA, bah, il faut qu'ils se mettent à niveau. Et au final, s'ils foirent un peu leur début, bah, ça rajoute de la pression. Et comme ils n'ont pas eu cette habitude de jouer déjà à un vrai niveau professionnel ou autre par rapport à certains de leurs concurrents qui, eux, ont déjà fait une ou deux saisons dans leur pays à un niveau pro ou à l'étranger. Et ben je pense qu'on arrive peut-être à la fin certaines limites de ce système universitaire NBA, et peut-être que les Américains devraient penser à faire une ligue professionnelle en dessous de la NBA ou je sais pas, ou quelque chose comme ça. Ce qu'ils essayent de faire avec la G League, hein, mais le niveau est pas assez bon, quoi.
Bah, t'avais la passerelle. Surtout, vas-y, Benj, je t'en prie.
Non, ce que je veux dire, c'était que c'est surtout super compliqué à réformer, en fait, parce que ce qu'ils ont voulu faire avec la J-League Ignite, justement, ils ont voulu à la fois forcer la main du système universitaire pour leur dire « bon, maintenant, il faut payer les athlètes ». En fait, c'était vraiment l'idée de dire « tant que vous ne faites pas ça, nous, on va prendre vos prospects, on va les former directement en NBA. L'Overtime Elite, c'est calé sur le même créneau. » En fait, il y a eu cet intérêt direct puisque les joueurs ont montré l'intérêt de gagner de l'argent très vite, ils ont créé une offre pour ça qui a forcé la main déjà de la réforme universitaire. Et ça a demandé un an avec la J-League Ignite. Ça a demandé la création de l'Overtime Elite. En fait, il a fallu que la NBA en fait, mette beaucoup de moyens en œuvre pour réformer un tout petit peu le système universitaire. Enfin, je dis un tout petit peu, c'est quand même une grosse révolution que les joueurs puissent être payés. Mais ce dont on parle là tout de suite, c'est une révolution qui est encore plus grande. En fait, la NBA aujourd'hui n'est pas forcément beaucoup plus grosse que la NCAA. La NCAA aux États-Unis, c'est une institution, c'est vraiment quelque chose qui est immense pour les fans, pour les facs, pour les joueurs, pour le public. Donc en fait, c'est, y a pas vraiment de gros moyens de pression que la NBA peut mettre aujourd'hui sur la NCAA pour dire réformer le système. Donc tant que la NCAA est bénéficiaire de tout ça, il n'y a pas trop de raisons que ça change, à moins que la NBA trouve un moyen de lui forcer la main. Et là, pour tout réformer, je ne vois pas vraiment la solution. Il faudrait à la limite que la NBA en fait, repousse l'âge minimum de la draft. Pareil, ça, elle n'a pas intérêt à le faire, parce que ça impliquerait que les prospects passent moins de temps en NBA et plus de temps à la fac. Et on a vu ces dernières années que le discours poussait plutôt vers une réduction de l'âge pour recruter des lycéens et qui zappent directement la case NCAA. Donc, en fait, je pense que la réforme, elle n'est pas réaliste. Et juste sur le côté, le niveau pro versus fac, ça dépend un peu des facs dans lesquelles tu es, de si tu joues la March Madness et tout ça, je pense. Et ça dépend aussi des clubs pro. Genre Victor, par exemple, il joue les finales de BetClick, c'est vraiment compétitif. Il a vu l'Euroleague, c'est vraiment compétitif. Tu prends l'exemple de la Nouvelle-Zélande. Je pense à LaMelo Ball qui a joué avec les... En Australie, ouais, pardon, mais il y a aussi, tu sais, les équipes en Nouvelle-Zélande comme celle de Sarge, justement, les Breakers. Mais du coup, si je prends l'Australie avec LaMelo Ball, les Illawarra Hawks, par exemple, c'était une des pires équipes du championnat. Il a très peu gagné. C'était une équipe qui était vraiment tout pour LaMelo Ball. Et le jeu était genre affreux, vraiment. Donc je pense que limite, si lui avait choisi la NCAA, il aurait plus appris à gagner que ce qu'il a fait en Australie, en fait. Donc pareil, il y a encore une question d'environnement, de contexte, de quelle fac, de quoi on parle. Je ne sais pas s'il y a une vraie solution à tout ça, en fait, parce que c'est très complexe. C'est un truc qui s'étale sur plusieurs pays, qui attaque un système institutionnel énorme aux États-Unis. Donc j'avoue que j'ai l'impression que c'est sans issue, en fait, tout ça.
Ouais, c'est vrai que...
Sans issue, il n'y a pas de système parfait. Il y aura toujours des inconvénients, mais en tout cas... je pense que là où maintenant les joueurs qui peuvent un peu se, pour moi les jeunes qui peuvent un peu se frotter les mains, c'est les jeunes qui jouent dans les championnats européens qui sont indéniablement meilleurs que la NCAA. Bon, je parle pas des championnats type Gibraltar, etc. Mais par exemple, jouer en Pro A, c'est bien plus formateur que jouer en NCAA et tu gagnes beaucoup plus en maturité. Et je pense que c'est les joueurs. Il y a une opportunité pour les joueurs européens. Et d'ailleurs, on avait parlé dans un épisode précédent où maintenant ça, la NBA a plutôt un visage européen. C'est peut-être parce que on a des joueurs européens qui sont arrivés en NBA déjà bien matures, pour certains en avance sur les joueurs américains qui sont en avance tout court sur les joueurs de leur âge et qui sont maintenant dominants en NBA. Et donc, ouais, pour moi, il y a une opportunité pour les joueurs européens de vraiment prendre l'ownership de la NBA et ouais, vraiment de devenir les leaders de la NBA.
Vas-y, Quentin, si tu veux rebondir.
Ouais, je voulais rebondir sur ce que disait Benjamin avec... où la NBA réfléchirait du coup avec les histoires de lycéens, tout ça. Mm-hmm. Et ça rejoignait un peu ce qu'on disait au début pour moi avec l'histoire de mental.
Ouais.
Où justement, tu vois, ça aussi, ce serait pas la bonne idée. On se souvient, par exemple, niveau mental d'un certain monsieur Kwame Brown. Non, mais tu vois, c'est... Tu vois, en fait, ça rejoint tout ce qu'on disait, tu vois. Âge, mental, environnement.
Bah, après... non, mais déjà à l'époque c'était dur Kobe Bryant, tu vois, mais je me dis aujourd'hui avec les réseaux et tout, je pense que c'est quelque chose qui est infaisable. Je pense qu'un Kobe aujourd'hui ça n'existe plus.
Peux plus faire ça. C'est vrai qu'en plus il y a un contexte aussi qui est propre maintenant à notre époque qui rend les choses aussi différentes, pour pas dire peut-être même plus compliquées. Mais après quand on prend un peu de recul sur tous les prospects qui ont été sélectionnés direct après le lycée, sans passer par la case université, il y en a pas énormément, hein, n'empêche, hein, des erreurs de casting. Hein. En dehors de Kwame Brown, après, quelles sont les vraies grosses erreurs de casting ? Il y en a pas réellement. Hein. Tu reprends des Kevin Garnett, LeBron James, tu prends... Enfin, il y a quand même de sacrés profils, hein, Kobe, c'est vraiment que des joueurs open.
Il y a pas mal d'erreurs, en vrai, si tu retraces un petit peu, il y a pas mal de mecs qui ont raté, mais je pense que c'est 50-50, quoi.
Puis après, il y en a certains, par exemple, LeBron, quand il arrive, tout le monde sait qu'il est déjà au niveau, par exemple. Alors que Kobe, c'est vraiment à Paris. Tu vois, c'est pas le, y a pas la même hype quand les deux arrivent, tu vois. Donc, genre, c'est pour ça que je te disais, Kobe, je pense que c'est quelque chose qu'on peut plus faire aujourd'hui. Tu peux plus prendre un gamin du lycée aujourd'hui avec les réseaux ou autres et le laisser se développer, genre.
Ouais.
Tu vois, c'est plus possible. Il faut que ça soit un crack niveau, ou comme t'as dit LeBron, un gars qui arrive, qui est déjà ready et qui va tout péter. Tu peux, genre, t'imagines, là, tu prends, aujourd'hui, t'as une équipe NBA top, t'as un pick top 5. Et tu prends un gars du lycée et tu le laisses jouer quelques minutes tes premières saisons, le mec il va se faire détruire. Première sortie, il va faire des airballs comme Kobe là. il est foutu le gars.
Ouais.
Ah, mais si c'est Victor Wembanyama, tu vois, t'as envie de l'avoir très vite. Et Victor aurait carrément été prêt, par exemple, dès 18 ans. Il n'avait pas besoin de cette dernière année à Levallois, alors qu'il a été bénéfique. Hein, mais il y a plein de contre-exemples. Si tu ouvres cette porte-là, après je dis pas qu'il faut qu'il l'ouvre, mais je pense qu'il y a plein de profils que tu peux prendre. Je sais pas si je suis très réceptif à l'argument réseaux sociaux parce que c'est pareil, ok, c'est quelque chose qui, les gens grandissent avec ça maintenant et les joueurs sont dessus. Et je sais pas si ça affecte tant que ça leur niveau de maturité ou quoi que ce soit. Quand tu vois les prospects qui sortent aujourd'hui, je sais pas, Chet Holmgren, par exemple, on en parle beaucoup comme le rival de Victor en termes de jeu, en termes de maturité, il est aussi déjà très loin. Et c'est pareil, c'est un joueur qui, dès la sortie du lycée, quand il jouait du côté de Minnesota, lui était déjà très mature en fait. Et t'as plein de joueurs comme ça, t'as plein de profils qui auraient pu être sélectionnés directement. Ou alors t'as l'exemple de Jonathan Kuminga qui a réussi à skip sa dernière année de lycée en fait, à prendre un an d'avance en jouant pour l'Ignite. Et du coup, il a été drafté sur l'année où il a eu son diplôme de lycée. Donc c'est pareil, lui c'est un succès en termes de développement. Il a peut-être eu une année de vide, mais il a été pris virtuellement comme s'il était arrivé à la fin de son lycée. Donc en fait, il y a plein d'exemples. Je pense que le jeu des exemples et contre-exemples n'est pas forcément le bon parce qu'il y a plein de bons exemples de pourquoi il ne faut pas le faire, de bons exemples de pourquoi il faudrait le faire. Donc en fait, tout ça, ça, je trouve que c'est un peu un débat sans fin, en fait. Je pense que c'est un peu se perdre, justement, de se concentrer trop sur ce truc de lycée. Et je pense surtout que la NBA ne changera pas ça avant le prochain CBA, qu'on a quelques années.
Ouais.
Je pense que la NCAA ne changera pas. Pareil pour les championnats européens, ils s'en foutent, en fait. Donc, je pense qu'il faut prendre la situation telle qu'elle, en fait.
Oui, et puis c'est peut-être plus une question de cycle, en fait. C'est peut-être plus sur cet angle-là qu'il faudrait le prendre, parce que, comme tu l'as dit, enfin, tu sens clairement qu'il y a des époques, chaque époque un peu à son mode de fonctionnement, et comme vous l'avez très bien dit, messieurs, de toute façon, ce sera un débat sans fin. Il n'y aura jamais de vérité absolue sur un mode de fonctionnement qui fonctionne à 100%. Il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte. Et voilà, en ce moment, on fait beaucoup venir des joueurs qui sont assez jeunes. Après, ça se trouve, on ne sait pas ce que réserve le futur. Peut-être que le futur va de plus en plus se tourner, peut-être sur des joueurs qui auront peut-être plus d'expérience, qui apporteront beaucoup plus de garanties, que ce soit à la fois personnel, mais aussi sportif pour chaque équipe. Donc bon, on verra de toute façon ce que réserve la suite. Mais bon, en tout cas, je trouvais que le débat méritait quand même qu'on se penche dessus, parce que au moins ça permet de d'ouvrir les yeux sur pas uniquement sur le système de NBA, mais c'est vraiment tout un écosystème du basketball américain qui est qui a à revoir. Donc même pour ceux qui sont pas forcément, on va dire, aguerris de cet écosystème, au moins ça permet d'ouvrir un peu les yeux sur tout ce qui se passe et tout ce qui gravite autour de l'NBA, sachant qu'il n'y a pas que l'NBA aussi, faut pas l'oublier, avec notamment les championnats européens qui sont de plus en plus forts. Avant de clore ce débat, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on passe à notre starting five et à nos coupeurs de citron?
Les Lakers jouent le titre.
La constante, voilà.
C'est voilà. Ça. C'est bon, il faut la glisser toujours, c'est ça. Jusqu'au premier match des playoffs contre les Denver, si on y arrive, j'arrête de le dire.
Ils vont encore voler un titre, c'est super. Ça va encore avoir 150 lancers francs sur
deux
matchs.
Ça y est.
De qui tu parles?
Bah, des Lakers.
Je n'entends rien. Il y a une coupe. Je déconnecte, je reviens.
T'inquiète pas, il y a LeBron James, c'est mort, il va falloir gagner.
LeBron James.
il va partir dans des possessions soporifiques il va endormir tout le monde, t'inquiète pas.
Voilà, il va regarder son ballon et après il va shooter à 3 points comme il sait.
Exactement, son demi-step back.
Après, il va faire une grimace, genre c'est de la faute de ses coéquipiers s'il a fait ça.
Ouais.
Il va regarder Russell direct.
toujours, c'est Russell, il regarde.
Ok, bon, bah parfait, merci messieurs, en tout cas pour ce débat qui était très intéressant, et merci aussi à Loris d'avoir introduit tout cela. Starting five, messieurs, bon, je suppose qu'on met déjà les deux joueurs de la semaine, donc Anthony Davis et notre ami White. Pas forcément.
Si, je pense, en vrai. Il garde à l'aise, sinon...
En position, quelle position, il dit
À toi de me dire, si tu vois un 5 éventuellement, ou un 4 qui peut fitter.
Siakam, quand même, qui a fait une...
Ah.
Siakam, c'est pas mal ce qu'il a fait. 29 points, 10 rebonds, 3 victoires, 1 défaite sur les 4 derniers matchs.
Bah, de toute façon, il dit 5. Davis joue 5 aux Lakers, donc 5. Hein.
Donc, est-ce que vous faites 1, 2, 3, 4, 5 du coup pour les postes?
Ouais, on va essayer de faire, de faire ça, ouais.
J'aurais bien dit.
Ok.
J'aurais bien dit Devin Booker sur le poste 2, mais bon, vu qu'il vient de se faire fumer par les Spurs. Ouais,
Jalen Green a quand même le droit à sa place dans ce starting 5, non? À un moment.
Ouais.
Deux semaines de suite, putain.
N'en déplaise à certains.
36 points de moyenne à 50% à 3 points, ça va, il peut se permettre normalement.
Qui est devenu ma NBA? Qui est devenu ma NBA?
Ah non, ouais, c'est...
Après,
dont si je sais, avec les Mavs, ils viennent d'enchaîner pas mal de victoires là et. Ils viennent d'être en pole position maintenant pour être tués en play-in. Donc pourquoi pas aussi dans Siege pour le coup, même si j'aime bien le taquiner.
Ah, parce pour le coup. Il a 34% au tir sur sa semaine, hein, pour information.
Ouais,
on sort ça comme
ah
ça.
Ouais 20... Ah ouais, 20... ouais. Là, tu donnes de l'eau à mon moulin, là. Faut aller battre ça.
Genre, il est en 30-19, mais il a des pourcentages affreux.
Mais
après,
faut...
ça gagne.
Ouais, mais faut pas oublier pourquoi ça gagne. Faut remettre. Bon, pour le coup, hein, c'est la mosquée au milieu du village. Hein, mais Ramadan Kairi, cherchez pas les gars. Le mythe de Ramadan Kairi, il est trop, ouais. Trop bon en ce moment. Mais
il fait une bonne semaine. Hein.
Mais il fait une bonne semaine. Mais c'est vrai que Dallas, pour le moment, est dans une vraie dynamique. Hein. C'est 4 victoires d'affilée. Ils sortent du play-in. Hein. Enfin non, ils sont en phase de sortir du play-in, pardon.
Je pense qu'ils vont taper les Kings là, donc. J'espère.
Luka et Luffy.
J'espère pas, hein, à 34%.
Non, dur. Mais du coup, ouais, en meneur, du coup, vous voyez qui?
Il y a De'Aaron Fox qui fait une bonne semaine.
Mm-hmm.
Aussi.
Ouais,
en vrai. Derek White, pourquoi pas, en vrai. Hein.
Ouais. Mais Fox, en fait, moi, il avait attiré mon regard parce que c'est genre du 25-6-5. Mais genre, il a 3,5 interceptions sur la semaine.
Ça cause, hein.
Ah ouais, de toute façon, Fox, pour moi, c'est un des plus sous-cotés dans la ligue. Tu sais, il fait des performances, mais il est tout le temps... Enfin, personne ne le calcule vraiment, alors que le gars, il est vraiment fort, quoi. Mais, et puis... Non, c'est ouf, Fox. Franchement, moi, je suis pas contre. Je te suis sur Fox.
Moi, j'ai un joueur que j'aimerais soumettre. Ah. Mais c'est juste parce que, voilà, je sais qu'on... Il n'aura pas d'autres opportunités d'être dans le 5.
Alors, attends, vas-y. J'ai une idée, mais vas-y.
Tu veux deviner?
Vas-y.
Est-ce qu'il est dans la conférence Est? Oui.
Oui.
Est-ce qu'il est au Bucks? Non. Voilà. Non, il est pas au Bucks. Est-ce qu'il est roux? Oui.
Oui.
T'as pensé à lui?
Mais,
Est-ce qu'il va battre un record de franchise?
Oui, tout à fait. Un mec qui vient de planter 11-3 points, c'est ça?
Oui.
Oui, voilà, Dante DiVincenzo.
Est-ce qu'il a un an avec une conscience italienne? Oui.
Oui, tout à fait.
Voilà. C'est vrai qu'il vient d'en planter 40, l'autre.
Il a 20, je crois sur les 4 derniers games, il a 25 points de moyenne avec des victoires. Et surtout, le mec, il est meilleur au scoring que Brunson.
Ah oui, en tout cas sur la semaine, oui. Il y a juste le match face à Denver où il se troue un peu, où il a 11 points.
Ouais, j'avoue, ça c'est pas beau.
Mais il fait une très très belle semaine. Hein.
Mais ouais, 25 points. Ouais, et alors
normalement, je suis désolé, on n'a pas le droit. On continue pas comme dans Team Duncast, on a le droit de bien parler d'Enix maintenant.
Mais non, il y a trois supporters d'Enix, t'as pas compris. Il y a Vlad et moi.
Et oui, oublie pas que je suis un nouveau supporter d'Enix, moi.
Excusez-moi, j'ai loupé la transition. Moi, j'ai vu que ça parlait bien d'Enix, là, j'étais complètement perdu. Là, tu vois,
non, mais en fait, je t'explique. En fait, Vlad, il s'est rendu compte qu'avec les Sixers, il aura jamais le droit au bonheur. Voilà. Du coup, il allait du côté d'Enix, tu vois.
Putain, merde. C'est quel revirement, je crois. J'étais pas prêt, là.
Purée. Bah, écoutez, messieurs, ce que je vous propose, on va laisser Benjamin décider. Est-ce qu'on met White ou est-ce qu'on met DiVincenzo à la main?
Alors, moi, personnellement, ce sera Fox ou White, mais DiVincenzo, enfin, doucement, quand même. Quand même.
Bon, allez.
Non, on parle sur la semaine, hein. Par contre, on parle sur la semaine. On parle pas du
bien sûr, je comprends bien qu'on parle sur la semaine. Moi aussi, je parle de la semaine. Hein. Il y a pas de problème. Après, Derek White, il y a la défense en plus, tu vois. C'est, enfin, ouais. DiVincenzo n'est pas un peintre du tout, mais en plus, White, il est joueur de la semaine de la NBA parce qu'il y a le côté défensif en bonus. Donc, moi, je serais plutôt team White ou Fox. En tout cas, je serais pas trop pour DiVincenzo.
Donc, on aurait White à la main. Jalen Green, on le met en quoi? En 2 ou en 3?
2. Mais pas.
Bon, en 2, c'est un 2, ouais.
Moi, je me désolidarise de ce choix. Moi, c'est un starting 4.
Ah, purée. Donc, bon, Jalen Green en 2, White en 1. Du coup, on aurait qui en ailier?
Ce qui est dur, c'est que les Celtics sont un peu disqualifiés parce que, à cause du match là, enfin, où ils sont faits effectivement.
Qui fait un peu tâche. Hein.
Est-ce qu'on peut mettre Siakam en 3?
Ouf.
Pourquoi en vrai,
moi, j'ai un nom original à vous proposer.
Vas-y.
Michael Porter Jr.
Oh.
Parce que c'est du 23-7, 63% au tir, 44% à 3 points.
Ah, c'est vrai que ces dernières semaines, il est très intéressant.
Moi, j'ai un autre gars à vous proposer. Il joue le titre et il s'appelle LeBron James.
Ah, purée.
Ouais, pourquoi? En vrai, ouais.
Bah, ça joue, mais c'est vrai que le Michael Porter Jr., ça me plaît bien aussi. Hein.
Genre?
Non, sérieux. Bah, après, c'est un joueur que j'aime beaucoup déjà de base, donc moi, ça me va aussi. Hein, mais,
Rafik, il veut juste pas passer pour une banquette de LeBron, c'est tout. Il fait genre, il s'intéresse à d'autres joueurs.
Non, mais bien sûr, j'ai capté.
Allez, on va le suivre, Michael.
Ah, laissez-moi dans mon politiquement correct, s'il vous plaît, messieurs. Non, Michael Porter, franchement.
Porter Junior, j'aime bien, moi.
Ouais, moi, j'aime beaucoup.
Let's go.
Allez. Donc, va pour Michael Porter Jr. Alors, du coup, Anthony Davis en 4 ou en 5?
Non, Siakam en 4 et Davis en 5.
Siakam en 4, ok. Moi, ça me...
Un truc comme... De toute façon, on s'en fout, ça n'existe plus les postes 4 et les postes 5.
Oui, maintenant, c'est le front de courte, oui. Ouais.
On n'a pas parlé du mec qui joue aux petits chevaux. Du mec qui joue aux petits chevaux.
Qui joue?
Ah, le Serbe.
Ouais, exactement. C'est bien.
Ah! Oh là, oui, ah, j'avais compris au petit chou, j'avais pas compris au petit chevaux, pardon. Ah oui, oui, bon, bah en même temps, lui, c'est devenu tellement une habitude qu'on y pense même plus en fait.
Non, mais moi, c'est pire, c'est que j'ai compris au petit chevaux, je me disais, mais putain, il y a qui au piston qui est fort? J'étais en train de chercher de ouf là, je me disais, Wiseman, j'ai la bête de une bête de semaine, Wiseman, genre j'étais perdu, genre. Jalen Duren, il est blessé, je crois, non, j'étais perdu complet.
Bah, attends, c'est quoi la semaine de Wiseman? Peut-être qu'on peut l'intégrer. Hein.
Oh, arrête. Va pas taper ta recherche sur.
Il vient de faire 3 bons matchs. Hein. Je viens de voir. Franchement, c'est pas
il
mal.
Est en 15-10 de moyenne.
Ouais, non.
Avec 3 turnovers. Attention.
Fais gaffe parce que ça. Oui, on dit ça, mais on a été capable de fournir des places dans le 5 de la semaine à des joueurs qui ont à peu près ces stats-là et qui touchent 200 millions de dollars. Je dirais pas de nom, hein, vous aurez très bien compris qui est à l'intérieur, hein, mais bon, ça regarde que moi. Moi j'aime bien Siakam en 4, hein, pour le coup. Et en plus, c'est un mec qui est épanoui en ce moment, ça se sent. Il est souriant.
Ouais, moi c'est bon.
Allez, Siakam en 4. Anthony Davis en 5. Après, si vous souhaitez, on peut mettre
que quand tu joues avec Haliburton, tu peux que être épanoui en fait quand tu joues avec lui.
Moi, j'aurais plutôt dit TJ McConnell, mais bon, c'est une question de
Haliburton. Et son perspective.
J'ai vu des trucs passer. Pourquoi TJ McConnell n'est pas dans la discussion du CM de l'année? C'est bon, arrête là.
Bah, non, ah ouais. Par contre,
Haliburton, il est
très efficient, bon. TJ McConnell.
Par contre, non, il fait une saison très intéressante. Hein.
Je l'aime bien, il est bon, c'est un bon joueur, mais ouais, bon, voilà quoi.
Oui, bon. Ah ouais, c'est bon.
Haliburton, quand il joue, j'ai des frissons, mes poils, il se lève, tu vois.
Voilà, comme moi avec.
Un métis comme ça qui fout pas la honte encore, ça fait du bien. Parce que dernièrement, ça n'allait pas, tu vois.
Pas comme Jason Tatum.
Ouais, non,
c'est ça.
Tu vois, TJ McConnell, moi j'ai ma petite Madeleine de Proust avec Austin Reeves, voilà, c'est bon, on n'en fait pas des caisses non plus.
Bien sûr.
Ouais, bien, ça. N'est-ce pas. Vous souhaitez mettre un sixième homme, messieurs? Il y a quelques noms qui ont transité.
Mais est-ce que le
Kyrie Irving pour le style un...
Ok.
Ramadan Kairi.
Ramadan Kairi. Ah purée. Non mais ouais. Non mais sinon plus sérieusement.
Rafi, tu vas mettre Middleton, Rafi.
Non mais si on a dit Fox pour potentiellement une place dans le 5, on peut mettre Fox en 6ème homme. En plus, il a le profil, ouais. On va dire.
Non, ouais. Bah moi ça me va, hein, Fox en 6ème homme, hein, pour le coup. Je pense que c'est plutôt
un coach.
Alors, un peu d'amour pour Ling, ça fait du bien, c'est cool.
Oui. Allez, Fox, go pour Fox. Et ouais, un coach?
Udoka.
Jason Kidd.
Pour moi, Udoka, ça coûte 8 victoires de suite, on a dit, avec les Rockets.
C'est même 9.
À... 9 même.
Ouais, 9. Il réussit à rendre bon Jalen Green, donc à partir de là, voilà.
Ouais, mais bon, les affaires extra-sportives d'il y a quelques temps... Tu vois, j'ai une fierté quand même.
Non, mais apparemment, il faut séparer l'homme de l'artiste. Tu vois, si ton boulanger met des tacs à sa femme, et ben, tu bouffes quand même sa baguette, apparemment. Donc,
voilà, non, tu vois. C'est la même pour Miles Bridges. Voilà.
Josh Primo.
À skip.
Voilà. Non, ouais, bon, il met Udoka, oui, je pense que c'est quand même amplement mérité pour le coup. Moi, ça me va très bien. Les coupeurs de citron, ceux qui ont fait une moins bonne semaine. Alors, ça peut être aussi bien joueur que équipe, hein. Libre.
Les Clippers.
Ah.
En vrai, les Suns, de fou, hein.
Ah, les Suns, ouais, hein.
Moi, Suns, Clippers.
Tu perds quand même contre les...
Clippers, 4-1.
Attendez, pas
trop. Ah, Clippers, de fou, ouais.
Ouais, Clippers, ouais. Suns, Clippers. Ouais, les Clippers qui ont perdu face à Philly, au passage, hein, je le rappelle. Hein.
Et les Clippers qui ont perdu malgré le retour de Westbrook, tu vois, dans... comme quoi, qu'ils soient là ou pas, ils sont juste mauvais en ce moment. Ils sont juste mauvais en ce moment, c'est tout.
Ça y est, on va bien parler de Westbrook, s'il vous plaît, merci.
Aïe.
Moi, j'aurais dit aussi des mecs de Brooklyn. Franchement, les Nets, ils sont vraiment nuls.
On l'avait déjà mis la semaine dernière, ouais, je crois.
Ouais, mais bah,
et si ça devenait...
Vous pouvez pas mettre les mecs de Brooklyn chaque semaine dans les coupeurs de citron, c'est pas possible. Il faut leur laisser un petit peu la paix de temps en temps.
Moi, je dis, et si ça devenait le fil conducteur?
Ah, toi, tu veux que ce soit un fil rouge?
Les Nets, c'est le fil rouge.
Ah non, c'est
mais
dur.
C'est terrible.
Ah, c'est dur. Ouais, bah, dans ce cas, j'ai envie de te dire, si tu mets Brooklyn, Toronto, ça se tape aussi. Hein.
Moi, j'ai envie qu'il y ait un running gag, j'ai envie que ça soit Jordan Poole. Moi, tu vois, c'est...
Bah, non, genre, Washington, attends, ils gagnent en ce moment.
Washington, ils sont sur trois victoires d'affilée. Hein.
Puis ah, bon.
Non, mais par contre, Toronto, c'est 11 défaites d'affilée. Hein.
Ouais, non, c'est chaud, Toronto.
Attends, laisse-moi aller voir les moyennes de Scottie Barnes.
Putain.
Après, ils ont un peu intérêt à perdre des matchs pour éviter que leur pick aille aux Spurs. Hein, donc,
les Raptors, ils ont même perdu contre les Nets. Hein.
Oui.
Ah ouais, j'avoue, c'est chaud.
Tout à fait.
Faut dire qu'il y a un mec qui s'appelle, il s'appelle Beat. Hein, donc,
Oh, vas-y, toi.
Attends. Oh, j'avais pas vu leurs deux derniers matchs perdus, c'est contre les Wizards et les Nets.
Voilà.
Ouais, c'est chaud.
Ah, c'est quand même pas mal.
T'as un mec quand même qui s'appelle Gradedic. T'as un autre mec qui s'appelle Freeman Liberty. C'est une équipe, c'est une blague.
tu sais, c'est comme pendant la bulle, tu sais, tous les maillots avec les mots que tu pouvais choisir contre le racisme et tout, là, ouais.
Ouais, grave. Non, mais Freeman Liberty, tu sais, on dirait le pote qu'on te met dans NBA 2K, tu sais, quand tu fais ta carrière. Il y a toujours un nom à la con comme ça. Là, c'était Michael B. Jordan à l'époque. Là.
T'as bien NS Freedom, hein.
En plus, il me semble qu'il y a un joueur de Toronto, il y a hier ou il y a deux jours, qui faisait des paris sur lui-même.
Oui, j'ai plus son nom, mais oui, il est
Jean Porter. Ouais. John T. Porter, un truc comme,
c'est
un truc comme
ça. Non, de Michael Porter Jr., justement.
Oh putain.
Wow. Le mec, c'est.
Bah, et si on le mettait, histoire d'avoir les deux.
Ah ouais, bah oui, de ouf. Bah, le mec, il s'est fait cramer.
Allez, John, bah, allez, John T. Porter, allez hop.
Moi, j'ai envie de mettre aussi Cam Thomas parce qu'il me fait rire.
Ah, oh, vas-y, toi.
Eh, mais Cam Thomas, il est trop drôle. Mais le mec, il ne fait aucune passe. Le mec, il s'emballe, hein. Il ne fait aucune passe. C'est je tire, je m'en fous, je suis le franchise player. C'est pas Michael Bridges.
Il est là, il dit,
arrêtez ces blagues.
Il est là, il te dit, je suis shooting guard. Shooting.
exactement. J'ai regardé le match contre Milwaukee, c'est je shoot. Il n'y a pas d'autre chose au basket.
Ah, dur. Bon, bah écoutez, très bien. Alors, dans le starting five, donc on avait Derrick White, Jalen Green, Michael Porter Jr., Pascal Siakam et Anthony Davis avec De'Aaron Fox en sixième homme et Ime Udoka en coach de la semaine, en tout cas de notre semaine. Et pour les coupeurs de citron, nous avons les Suns, les Clippers, les Raptors.
Les Cavs aussi, non?
Attends, les Cavs?
Bah oui, les Cavs.
Ouais, mais ils ont tout le monde qui... Il y a tout le monde qui
est en blessure aussi. Ça prend du buff en ce moment.
Ouais.
Il y a Dean Wade qui est titulaire, c'est bon, laissez les tranquilles.
Comment ça, Dwayne Wade titulaire?
Bah, non, Dean Wade.
Ah, Dean Wade. Ah, Dwayne...
Bah, surtout qu'à date d'enregistrement, ils ont gagné hier.
Ouais, ils ont gagné hier, mais ils ont pris 3 buffs juste avant.
Ouais.
Après ça, c'était les Wolves. Bon, il y a le 8. Bon, c'est pas 2 fois le 8, ouais, j'avoue.
Ouais, 2 fois le 8. Mais...
Ils ont pris dans une bonne buff. Un plus, ouais. 30, ou un plus 30, même plus 40 peut-être.
Bon, on verra pour la semaine prochaine éventuellement pour
Attends, je vais te sortir les starting line-up.
Ah non, ouais, mais bon, ça vend des pas du rêve. Hein.
C'est Garland qui...
T'as eu du George Young titulaire, il y a du Caris LeVert qui est titulaire, voilà, forcément aussi.
Ah bon?
Ah, il y a eu George Young titulaire.
Parce qu'on a Garland à 15 points de moyenne sur les 4 derniers matchs. Comment il s'appelle le poste 4, je rappelle plus comment il s'appelle.
Mobley.
Ouais, Mobley.
Il est pas là.
Il joue
contre les Hornets. Il joue dernier match. Hein.
Il vient tout juste de revenir de blessure.
Ah, il s'est blessé sur le cross. Ou c'est autre chose. Parce qu'il a pris un cross récemment, très méchant, par le mec des Clippers. C'est un mec des Clippers qui l'a crossé salement.
Ouais, peut-être. Oui, je me rappelle plus exactement, mais bon, en tout cas, il est revenu de blessure, en tout cas.
Récemment, c'était il y a un mois, quoi.
J'espère qu'il s'est pas blessé sur ça, parce que c'est chaud.
ils ont gagné le dernier match, en tout cas. Donc.
Ouais, ils ont gagné leur dernier, donc bon, ça annule un petit peu quand même cet effet Cooper. Cet effet Cooper de citron. Donc, pour revenir sur les Cooper de citron de la semaine, donc on a les Suns, les Clippers, les Raptors, John T. Porter, hein, le parieur fou, qui rendrait limite jaloux. Moi, mes Denis. Voilà, et Cam Thomas pour faire plaisir à Rafik. Eh ben écoutez messieurs, ce fut un bon gros épisode bien rempli sur un sujet fort intéressant. Tout d'abord, Benjamin, merci d'avoir accepté l'invitation. C'était avec un vrai plaisir et tu es bien sûr le bienvenu quand tu le souhaites, hein, dans la maison. La porte est grande ouverte.
Merci les gars, merci pour l'invitation. C'était un plaisir de faire ce petit débat avec vous. Et bien sûr, plus tard dans la saison, carrément avec plaisir.
Parfait. Et bah, n'hésitez pas, hein, bien sûr, à retrouver aussi, hein, Benjamin, hein, sur les réseaux sociaux, hein, donc, que ce soit sur Twitter ou X pour ceux qui préfèrent le site ainsi. Donc Benjamin Moubèche, Instagram pareil, Benjamin Moubèche sans E si je dis pas de bêtises. Vous le retrouvez également sur Basket Session, hein, donc avec le podcast Moob Deep, ainsi que sur les MOOC de Rivers, ainsi que sur les articles pour le D-Sport. Je mettrai bien sûr dans la description de cet épisode, hein, tous les liens pour que vous puissiez aller regarder les travaux de Benjamin. D'ailleurs, hein, si cet épisode vous a plu, hein, n'hésitez surtout pas aussi à nous le faire savoir en mettant 5 petites étoiles, hein, ça fait toujours plaisir, sur votre plateforme de streaming préférée, histoire de nous donner un petit coup de pouce aussi pour le référencement. Benjamin, une nouvelle fois, merci. Rafik, merci. Samuel, merci. Quentin, merci. De quoi ?
Ah, je disais juste que Chris Middleton était très fort au basket.
Oui, ça on le sait, ça on le sait très bien. Ça, y a
et que
plus...
les Lakers jouent le titre.
Et que les Lakers jouent le titre. Quentin, autre chose ?
Jeremy Swan est toujours meilleur que Kevin Durant.
Parfait. Et bien évidemment, hein, mais, messieurs ou mesdames, hein, n'hésitez pas à retrouver Forever aussi hein, sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur TikTok hein, avec le compte Forever Podcast, ainsi que sur Instagram, hein, compte Forever le podcast, où vous retrouverez donc du contenu quotidiennement. Et on vous dit bah, à mercredi prochain et n'oubliez pas que la vie est une fête. Ciao, ciao.